Votre matinale info sur Europe 1.
Anthony Favalli.
Bonjour à tous et bon réveil si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe à 8h10. C'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour. Avec bien sûr Guillaume Bigot, politologue. Bonjour Guillaume.
Bonjour Anthony Favalli, bonjour Guillaume Perrault.
Et voilà, face à vous ce matin, Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Bonjour Guillaume.
Bonjour à vous deux.
Et bonjour à tous d'ailleurs.
Et bonjour à tous nos auditeurs d'Europe 1. La tension palpable au cœur du petit village breton de Callac. C'est par ce sujet qu'on va commencer. La mairie a décidé d'accueillir des réfugiés pour lutter contre la désertification. Un accueil à marche forcée qui hérisse la population. Les habitants n'ont pas été consultés. Le projet intitulé Horizon est financé par la Fondation Merci, détenu par une famille fortunée. Ce reportage est signé Mickaël Chaillou.
Voici l'ancienne école que vient de racheter la mairie communiste de Callac afin d'y accueillir des familles de migrants en partenariat avec le fonds de dotation Merci. Le bâtiment est situé au cœur du bourg de Callac. C'est l'occasion de le restaurer et de redynamiser une commune qui perd ses habitants.
On a ce devoir d'accueil. C'est des gens qu'il faut accueillir. C'est des gens qu'il faut aider.
Ça peut faire revivre Callac un petit peu, parce que bon, il y aura du monde au moins.
Un avis que ne partage pas du tout ce retraité de Callac, dont la pétition a recueilli plus de 400 signatures.
Je pense qu'il faudrait déjà aider les jeunes qui sont sur Callac avant de nous amener des réfugiés. On veut garder notre identité, on veut garder Callac.
Une telle initiative aurait mérité un référendum, estiment de nombreux habitants. Le fonds de dotation Merci nous a fait cette réponse par communiqué.
Nous avons pris le temps de présenter notre projet aux Callacois lors d'une réunion publique en avril dernier. Le temps est désormais celui de la mise en œuvre des actions.
Pas assez de pédagogie et surtout politisation de l'affaire. Le mal est fait, selon cet habitant.
Ça va monter les gens les uns contre les autres.
Le maire de Callac, qui a refusé de nous répondre, a reçu à deux reprises des menaces de mort. Signe de la tension sur place, samedi pendant la manifestation, les bâtiments publics seront fermés et les activités sportives annulées.
Nous avons pris le temps de présenter le projet, dit la Fondation Merci. Et peut-être que la mairie aurait pu prendre aussi le temps de consulter les habitants de cette ville. Guillaume Bigot.
Ça me paraît très caractéristique du remplacement contemporain de la politique par le management. C'est-à-dire, on a des techniques consistant à faire avaler dans les entreprises des grandes réformes, par exemple une fusion-acquisition, et donc vous appointez un cabinet qui prépare les gens à la transition, au changement, etc., qui écoute tout le monde, et puis ensuite vous l'imposez. Là, c'est un peu le même mécanisme, si vous voulez. Et cette confusion entre le privé et le public est au cœur de ce sujet, puisque finalement, cette famille fortunée qui a décidé de se lancer dans la philanthropie et au service d'une cause qui est assez noble, finalement, s'intéresser aux réfugiés, aider les réfugiés, il n'y a aucun problème avec ça. Le seul problème, c'est que là, ça implique le destin d'une commune, et que les habitants de la commune, on les a pas sollicités, on leur a pas demandé leur avis. Et c'est un projet de long terme, si vous voulez. Donc ils font ce qu'ils veulent de leur argent, mais peuvent-ils en réalité transformer la physionomie d'un village? De plus, on dit que c'est politisé parce qu'il y a une réaction. Mais attention, la politisation était bien en amont, puisqu'il y avait des subventions publiques qui ont été allouées et débloquées. Ça nous amène à une question qui est quand même assez surprenante dans cette affaire. C'est pourquoi, s'il y a des zones répulsives, et il y en a parce qu'elles se vident de leurs jeunes, parce qu'il y a un vieillissement de la population, apparemment à Callac, 2200 âmes, magnifique commune des Côtes d'Armor, il y a 18% de taux de chômeurs. Et il y a des bâtiments qui menacent ruine. Et il y a une école qui a fermé. Donc l'idée
d'amener... Plus de 70 emplois vacants, un petit peu plus.
C'est ça, exactement. Donc l'idée d'amener des réfugiés sur le papier, ça a l'air extrêmement sympathique. Mais si on s'arrête un instant, on se demande si ces zones sont répulsives naturellement et si les gens en partent, si les indigènes en fait en partent de cette zone, comment va-t-on, d'une certaine façon non pas obligé, mais comment va-t-on permettre à des gens de l'extérieur et à des réfugiés des étrangers, en l'occurrence, de s'y installer? Ce qui veut dire qu'en fait, on va déployer des moyens, débloquer des crédits, mettre en œuvre, disons, une énergie qui est à la fois, je répète, une énergie privée, une énergie publique, mais cette fois-ci parce qu'il y a des réfugiés. Autrement dit, on comprend que la réhabilitation de ce centre-ville de Callac n'a de sens, n'a de légitimité, j'allais dire, est sanctifiée par la présence quasi religieuse de ce grand mythe qui est celui
Guillaume Bigot, ça ne vous a pas échappé non plus qu'Emmanuel Macron a parlé il y a deux jours. Et effectivement, ça se télescope avec ce qui s'est passé dans ce village. C'est-à-dire que le chef de l'État a annoncé qu'à partir avec la loi Asile et Immigration début 2023, le projet de loi, il entend pouvoir faire installer des réfugiés dans les milieux ruraux pour redynamiser ces régions, ces territoires en déclin, dit-il.
C'est ça, ça se télescope avec...
Ça veut dire que ce genre d'initiative va se multiplier et non plus seulement financé par des fondations privées, mais que c'est le secteur public qui va encourager ça.
Et on voit bien finalement comment l'immigration est vécue comme une sorte de fatalité, un peu comme le réchauffement climatique. Alors de toute façon, voilà, ils sont là, autant mieux les répartir d'une part et autant faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est un peu l'idée. Mais là, ce qui est quand même incroyable, c'est que des fonds ne sont débloqués que parce qu'il s'agit de réfugiés. Et donc ça veut dire que les gens sur place... ils ont moins d'intérêt finalement que les réfugiés. Vous voyez, il y a une sorte de xénophilie fondamentale, c'est-à-dire qu'on préfère l'étranger, on préfère le lointain à son prochain, pour parler comme les évangiles. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant. C'est tout à fait typique. Non pas que ce soit pas bien de s'occuper des réfugiés. Moi, je pense que le projet serait extrêmement sympathique si on était encore dans les années 70, où vous aviez 15 000 personnes qui étaient accueillies au titre de... qui bénéficiaient du statut de réfugié chaque année. En 2019, il y en a eu 170 000. Donc le problème aussi, c'est qu'on sait bien que ce statut de réfugié, il est accordé non seulement de manière extrêmement extensive maintenant, et plus seulement pour les combattants pour la liberté comme en 1946, mais en plus d'être accordé de manière extrêmement large, la plupart des gens qui ne l'obtiennent pas, on le sait, restent sur le territoire français. Et enfin, pour terminer, moi, il me paraît quand même extrêmement étrange cette conception d'immigration où finalement les réfugiés ne sont pas des hommes et des femmes qui promènent la culture, leur culture d'origine, leurs valeurs, leur langue aussi et leurs mœurs à la semelle de leurs souliers, mais ce sont vraiment des gens pour remplir des trous, des espèces de flux économiques, des flux de travail, des individus interchangeables. Ça, c'est quand même extraordinaire parce qu'en fait, si on réfléchit un instant, on se dit qu'on ne peut réussir un projet migratoire que si on a beaucoup d'enfants localement. Parce qu'on oublie, mais ce sont les enfants qui vont assimiler les nouveaux venus. Si vous venez dans un pays et que vous voulez y faire souche, il faut qu'il y ait beaucoup d'enfants locaux. Donc on ne peut pas traiter un trou démographique par de l'immigration, sauf à créer un problème politique bien plus grave.
Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox, est-ce qu'il y a une forme de naïveté dans ce projet? Je vous lis simplement la plaquette de ce projet qui s'appelle Horizon. Grâce à leur talent, ces hommes et ces femmes révéleront la richesse d'une région, participeront à la dynamique locale. Ce sera un lieu qui doit accueillir une population, mais qui en attirera d'autres, des visiteurs, des habitants des communes voisines, des artistes venus séjourner en résidence. Est-ce qu'il n'y a pas une forme un peu de rêve illusoire, de naïveté dans ce projet?
Je dirais que c'est une vision optimiste d'avocat qui plaide son dossier. Ça peut en effet se passer comme ça. Ça peut avoir... Les choses peuvent prendre une tournure beaucoup moins heureuse. Ce qui me paraît certain, c'est qu'on ne peut pas forcer le consentement des habitants sur une question comme ça. Certains endroits, le maire, le conseil municipal, ont tout à fait la liberté de faire ce qu'ils font et ils peuvent dire, écoutez, nous, on n'a aucune obligation d'organiser un référendum local. Référendum local dont l'issue, d'ailleurs, ne les lierait pas juridiquement. Et si les habitants ne sont pas contents, au prochain municipal, ils voteront pour une autre liste. En droit pur, d'un point de vue un peu strictement juridique, on peut tout à fait défendre ça. Mais après, il y a les réalités. Dans l'état de défiance qu'ont tous les Français envers leurs représentants, sur une question aussi délicate et aussi complexe, un référendum local aurait l'immense avantage de forcer la commune à argumenter.
Surtout que je précise que l'hôtel de ville reçoit un nombre incalculable de mails racistes, antisémites et même des menaces.
Alors, ça, c'est évidemment inacceptable, inadmissible. Mais si on se cantonne à la question démocratique entre gens raisonnables au niveau local, il me paraît souhaitable que sur une question pareille, un référendum soit organisé pour forcer chacune des parties en présence à argumenter et sortir du flou. Il y a eu une pleine page d'enquête dans le Figaro sur cette affaire par ma consoeur Stéphane Kovacs et il m'a semblé que le maire, dont je ne mets pas du tout en doute l'honorabilité ni les bonnes intentions, le maire m'a paru assez faible dans sa motivation du projet et surtout dans les réponses qu'il apportait aux inquiétudes. Ces inquiétudes, elles sont, grosso modo, elles peuvent être résumées en un terme, c'est le multiculturalisme. Est-ce qu'on veut imposer le multiculturalisme à des habitants qui, en tout cas pour une partie, n'en veulent pas ?
Certains habitants vont encore plus loin, parce qu'il y aurait, semble-t-il, un combat entre les promoteurs d'une sorte d'arche de Noé, finalement, et d'autre part,
c'est
ceux qui voient...
C'est le terme qu'ils utilisent, arche de Noé exactement. Moderne, c'est le terme qui est utilisé
exactement,
par la Fondation.
Exactement, Guillaume Bigot. Et d'autres y voient le laboratoire d'un grand remplacement.
Oui, mais ça, c'est deux positions extrêmement tranchées. Et puis, entre les deux, vous avez des gens qui hésitent.
En tout cas, c'est eux qui vont se faire face aujourd'hui, parce qu'il y a une manifestation
voilà,
tout à l'heure à 11h.
Le propre de ce genre d'affaires, c'est qu'après...
Qui illustre la tension.
Oui, et puis le propre de ce genre d'affaires, c'est qu'après, c'est investi et même surinvesti par les partis en présence, comme pour illustrer une polémique d'ordre national. Et évidemment, ce qu'a dit Emmanuel Macron, même si le maire n'a pas attendu Emmanuel Macron pour lancer son projet... Tant encore le climat, puisque le président de la République a dit la population est déclinante dans oui. certains secteurs. En revanche, il y en a d'autres. Il y a trop d'immigration dans des banlieues déjà à problème. Et donc, en gros, plutôt que de laisser les nouveaux venus concentrés dans des zones comme la Seine-Saint-Denis, il vaudrait mieux les répartir dans le... Alors là, c'est un raisonnement qui, évidemment, va beaucoup hérisser. D'abord parce qu'il faut rappeler qu'en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas que des problèmes. C'est aussi, le géographe Christophe Guilluy l'a bien démontré, une zone où on peut plus facilement trouver un travail. C'est au cœur d'une zone d'activité qui est l'Île-de-France.
C'est la zone déprimée.
Et c'est en fait beaucoup plus les zones rurales qui, elles sont des zones à problèmes, si vous voulez, dont on parle moins, enfin, qui ont d'autres types de problèmes moins visibles et qui attirent moins l'attention des pouvoirs publics et des médias.
Des problèmes, si vous voulez.
Et donc c'est un des aspects de la situation. Puis il suffit de voir les résultats électoraux en Suède ces derniers jours et probablement en Italie dans quelques jours pour voir qu'on prend là un grand risque.
Dernière question, Guillaume Bigot. Est-ce que ce n'est pas aussi difficile de faire accepter l'accueil de réfugiés à certains territoires quand on n'est pas déjà capable de réguler les flux d'immigration clandestine dans le pays? Et ça, Emmanuel Macron n'a pas réellement apporté de réponse l'autre soir, si ce n'est on va négocier des laissez-passer consulaires en échange de visas octroyés aux pays concernés pour le retour justement de leurs migrants clandestins.
Oui, c'est-à-dire quelques dizaines d'individus qui vont être récupérés par les états d'origine et en échange plusieurs milliers de visas. En plus, je rappelle qu'il y a eu plus d'un million de nouveaux titres de séjour qui ont été délivrés pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est un record. Ça nous renvoie à cette question du consentement. Guillaume Perrault a raison. Et il faut dire que là, ce qui se passe à l'échelle de Calac, en fait, c'est passé à l'échelle de notre pays depuis la fin des années 70. Je vous rappelle que sous Giscard d'Estaing, le Premier ministre Raymond Barre s'était inquiété après l'arrivée de la crise économique, parce que là, la classe dirigeante veut nous vendre l'immigration comme un sujet moral, les bons contre les méchants. Mais ce n'est pas un sujet moral, ça peut être bien ou mauvais en fonction des conjonctures. Là, après la crise pétrolière dans les années 70, c'était plus du tout une bonne idée de faire venir une immigration de main-d'œuvre, ça n'avait aucun sens. Et là, tout de suite, le gouvernement s'est heurté, là en l'occurrence au Conseil d'État, puis au Conseil constitutionnel, puis maintenant à toutes sortes de cours et toutes sortes de traités, de sorte que les Français n'ont pas leur mot à dire et n'ont jamais eu à se prononcer depuis les années, fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, où la physionomie du pays s'est totalement transformée, où les conditions, les trois conditions simples pour que l'immigration soit un succès, je le rappelais tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il y ait une démographie forte, parce qu'il faut qu'il y ait des enfants locaux qui assimilent les nouveaux venus, les enfants nouveaux venus. C'est plus le cas. Deuxièmement, il faut une confiance en soi extrêmement forte. Il y a une inquiétude identitaire, pour toutes sortes de raisons. Il faut être très patriote, comme l'était la France avant, les États-Unis, l'Australie, pour assimiler des nouveaux venus. Il faut être fier de soi et pas dans le doute. Et troisièmement, il faut une croissance économique forte pour qu'ils trouvent des emplois. Aucun de ces trois moteurs sont arrêtés. Et c'est précisément le moment où les moteurs sont arrêtés qu'on fait venir un million de personnes en plus les cinq dernières années. Oui, donc c'est complètement fou. En fait, il n'y a pas de consentement. Mais surtout, ce qui me fascine dans cette histoire... Vous avez raison de lier le laboratoire un peu foutraque du vivre ensemble irénique qu'est Calac et l'allocution de M. Macron. En fait, ce qu'on comprend entre les lignes, c'est qu'on est une situation inversée par rapport aux propos que tenait Jean-Marie Le Pen dans les années 80-90. Dans les années 80-90, Jean-Marie Le Pen disait « Moi, je dis tout haut ce que les Français pensent tout bas ». Sous-entendu, de l'immigration. Et là, on comprend bien que la classe dirigeante, M. Macron, la Fondation, Horizon, Merci, etc., eh bien, ils ne peuvent pas dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Et ce qu'ils pensent tout bas, c'est que l'immigration va sauver les retraites, l'immigration va permettre de pouvoir avoir des emplois, etc., etc. Donc on va effectivement vers un divorce qui va être brutal, je pense, entre la classe dirigeante et les élites.
Allez, nous sommes toujours avec Guillaume Bigot, politologue, et Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Autre question que je voulais aborder avec vous ce matin. Une statue de l'archange Saint-Michel sera-t-elle déboulonnée au nom de la laïcité? Ça fait plusieurs mois qu'on vous parle du sort de cette statue des Sables d'Olonne en Vendée, placée sur le parvis de l'église Saint-Michel. Seulement, voilà, cette statue, elle pose problème à une association au nom de la séparation de l'église et de l'État. Elle a porté un recours au tribunal administratif qui lui avait donné raison en décembre dernier. Et là, c'est la cour d'appel qui a confirmé cette décision de retirer la statue de l'archange. La mairie n'a pas dit son dernier mot. Elle veut que cette statue reste. Elle entend porter l'affaire devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative. Écoutez l'avocat de la mairie, justement. Il s'agit de maître Guillaume Glénard.
La commune des Sables-d'Olonne va se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État. Il s'agissait ici simplement d'un arrêt de la cour administrative d'appel. Donc il y a une voie de recours qui est tout à fait possible. Et ce qu'espère la commune des Sables-d'Olonne, ce qu'espère le maire des Sables-d'Olonne, ce qu'espèrent les habitants, la plupart des habitants des Sables-d'Olonne, c'est que cette affaire va se terminer de manière raisonnable et que le Conseil d'État reconnaîtra le caractère traditionnel de cette statue.
Cette décision de la Cour d'appel, c'est la victoire de qui, de quoi? J'ai du mal à comprendre l'essence de ce combat d'une association pour une statue qui est située déjà sur le parvis d'une église. Ce n'est pas n'importe quelle place de la ville non plus. Et ça fait partie aussi du patrimoine culturel, historique.
C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de très très étrange. C'est qu'il y a une sorte de réactivation de l'esprit, pardon pour l'expression, bouffeur de curé de la fin du 19e siècle au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Voilà, c'est-à-dire qu'une vision très vindicative de la laïcité, alors que les églises sont vides. Et alors que l'Église catholique ne représente aucune espèce de menace politique, de volonté d'emprise sur la société.
Vous voulez dire qu'il y a peut-être d'autres combats à mener pour la laïcité en France que celui-là?
Je pense qu'on est face à ce que Marx décrivait comme « frapper sa grand-mère ». C'est-à-dire que c'est parce que l'Église est à terre, le catholicisme est à terre et finalement n'est plus tellement vivace, que certains se déchaînent contre, disons, les traces, un peu les traces mnésiques, les traces historiques, les traces culturelles dans le patrimoine. Parce que là, allons-y, donc ça veut dire que la place Saint-Michel à Paris, c'est un scandale, peut-être falloir déboulonner la statue de Saint-Michel sur la place Saint-Michel. Ça veut dire que Notre-Dame de la Garde à Marseille, qu'est-ce qu'on en fait? Y a une grande statue qui s'appelle Notre-Dame de France au Puy-en-Velay. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Enfin, comment va-t-on effacer toute trace de Saint-Louis, de la place Saint-Augustin, enfin de tout l'héritage en fait judéo-chrétien et pourquoi pas grec et pourquoi pas romain français. Enfin, c'est complètement fou. Bon, donc là, il y a une espèce de volonté d'avoir un pays qui serait une page blanche, qui serait un pays absolument neutre, qui n'aurait plus de un arbre sans sève, si vous voulez, sans héritage culturel, quand bien même cet héritage culturel, je le répète, s'il est chrétien et catholique, il n'est plus vivace. Mais on peut se poser la question, pourquoi il y a cette animosité? Moi, je pense que ça exprime deux choses. Ça exprime en fait une honte. C'est-à-dire que les partisans de la laïcité ont honte qu'il y ait un autre esprit, disons, de conquête religieuse, triomphant, agressif, qui menace les fondements de la laïcité, qui s'appelle l'islamisme. Et lui, eh bien, effectivement, les juges vont se déchaîner contre une statue de Saint-Michel et la faire retirer. Par contre, quand l'islamisme avance dans les crèches, dans les écoles, dans les piscines, et exige et arrache comme ça des petits morceaux et des lambeaux de la chair laïque de la France, ils ne bronchent pas, ils ne pipent pas mot. Donc je pense que c'est soit l'expression d'une peur, ces gens sont des lâches, soit l'expression d'une honte.
Quoi qu'il en soit, vous nous dites, Guillaume Bigot, il y a deux poids, deux mesures, c'est ça?
On est dans un esprit totalement...
De la part de la justice administrative.
Oui, mais c'est important de comprendre que ça veut dire quelque chose d'autre que ce que ça dit. Je pense qu'il faut l'interpréter comme ça, c'est-à-dire se déchaîner contre une église catholique qui ne représente malheureusement plus une force importante dans le pays, on aura probablement besoin. Et de l'autre côté, c'est pour mieux faire oublier qu'on laisse une menace réelle et bien vivace, celle-là, contre la laïcité avancée.
Dans quelques secondes, il sera 8h30 sur CNews et sur Europe 1. C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Elisa Lukavski.
Europe 1.
Emmanuel Macron se rendra à Londres demain soir, un déplacement avec son épouse Brigitte, à l'invitation du roi Charles pour un dîner. Le président a précisé qu'il serait évidemment présent pour les funérailles de la reine le lendemain. Il remettra au roi Charles III, un album photo des visites d'Elisabeth II en France, de Londres. Il se rendra directement ensuite lundi à New York pour participer à l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies qui aura lieu jusqu'à mercredi. Du football, mais sur le terrain judiciaire. L'international Aminata Diallo a été mise en examen hier pour violence aggravée et association de malfaiteurs. Elle a ensuite été placée en détention provisoire. Elle est suspectée d'être la commanditaire de l'agression de son ancienne coéquipière au PSG, Keira Amraoui, sur fond de rivalité sportive. 4 autres personnes sont poursuivies et ont également été mises en examen hier pour association de malfaiteurs et violence aggravée. La finale de l'Euro de basket, elle opposera la France à l'Espagne. Les Bleus qui ont hier dominé la Pologne 95 à 54. La défense de fer des Français associée à l'efficacité de Yabusele, 22 points, ou encore de Rudy Gobert, 6 points, 6 rebonds et 3 contres, permet aux joueurs de Vincent Collet de signer un match référence. 9 ans après leur premier et seul titre international en 2013, les Bleus sont à une marche d'un deuxième sacre. Finale demain à 20h30.
Toujours avec Guillaume Bigot et Guillaume Perrault pour évoquer l'actualité. On parlait, Guillaume Perrault, de cette statue de l'archange Saint-Michel. Est-ce qu'elle sera déboulonnée au nom de la laïcité ? Je vous soumets la décision qui a été prise donc par la Cour d'appel administrative. Elle a constaté que le personnage de Saint-Michel, chef de la milice céleste des anges du bien, fait partie de l'iconographie chrétienne et présente de ce fait un caractère religieux. Et elle rejette, la Cour, l'argumentation de la mairie selon laquelle cette statue revêt aussi un caractère culturel, historique, traditionnel, artistique et festif.
Il y a des moments où le droit et le bon sens se séparent, divorcent. Cet arrêt me paraît un excellent exemple. Oui, c'est évidemment une statue qui a avant tout un caractère historique, patrimonial, qui correspond à une identité locale et évidemment, il faudrait la laisser là où elle est. C'est une interprétation qui paraît extrêmement rigide d'un article de la loi de 1905, article qui existe quand même, hein, parce que c'est vrai que au plan de, si vous considérez la loi de 1905 et qu'on s'en tient à la lettre, normalement, il n'y a pas de statut à caractère religieux qui doit figurer dans l'espace public. Mais la loi est souvent beaucoup plus subtile, il faut la lire dans son intégralité. La laïcité, c'est le royaume des juristes. Il y a toujours eu une jurisprudence du Conseil d'État très très fine, très subtile, qui essayait de faire la part des choses. C'est en fonction de cette même loi qu'il y a des aumôniers dans les écoles publiques ou dans les prisons, par exemple. Ça, après tout, ça peut paraître une anomalie aussi au regard de la laïcité. Pourtant, c'est prévu par cette même loi de 1905. Bon, ça, c'est ma première remarque. On peut donc espérer que le Conseil d'État fasse triompher le bon sens sur une lecture psychorigide de cet article de loi. Et effectivement, je trouve que derrière la démarche de ces bouffeurs de curés désuets et anachroniques, il y a une espèce de hargne. Je dirais presque que c'est méchant. Et c'est inutilement vindicatif à propos d'une statue qui ne pose aucun problème aux habitants. Il y a eu d'ailleurs une consultation locale organisée par la mairie qui a donné un résultat absolument écrasant en faveur du maintien de cette statue. Donc c'est créer un problème là où il n'y en a pas, créer des crispations là où elle n'existe pas dans la vie quotidienne des habitants des Sables d'Olonne. Et enfin, c'est évidemment l'arbre qui cache la forêt et détourner les yeux des problèmes qui, pour le coup, massifs, ont été évoqués par Guillaume Bigot juste avant la pause.
Le nombre de plaintes pour violences sexuelles à Paris a progressé de 30% cette année par rapport à 2021. C'est le chiffre donné cette semaine par la procureure de la République de Paris. On a une moyenne de 4 plaintes pour viol par jour dans la capitale depuis le début de l'année. Cette peur du viol, elle imprègne aussi le quotidien des Parisiennes et notamment le week-end lorsqu'elles sortent en soirée. Justement, nous avons suivi un groupe de jeunes femmes qui sont sur le qui-vive permanent lorsqu'elles sortent et qui doivent adopter de nouveaux réflexes pour éviter toute agression. Notre reportage tourné hier soir avec Célia Judas, Laura Lestrade et le récit de Kinson.
À Paris, ce groupe d'amis a ses habitudes. Elles le savent, très souvent les quartiers animés sont aussi peuplés de rôdeurs.
On a moins tendance à mettre des robes, des vêtements sexy, voire même des talons. Talons, on ne peut pas courir. Jupe, on va avoir encore plus de chances, malheureusement, de se faire embêter dans la rue. Moi, j'ai toujours dans mon sac une bombe de poivre. Si jamais il se passe quoi que ce soit.
La légèreté, a cédé la place à la vigilance permanente pour ces jeunes femmes. Pour se défendre, Delphine s'est mise à la boxe après une agression il y a 2 ans.
Je me suis fait encercler par 6 mecs qui ont commencé à m'emmerder, à me jeter des bouteilles. Enfin, il s'est rien passé de plus grave, mais en fait, c'était un peu à 2 doigts de partir en cacahuète.
Dans ce bar, pas de protection sur les verres pour se prémunir d'un cachet jeté par une personne mal intentionnée. Alors les jeunes filles jouent au vigile.
Là, ta copine allait aller aux toilettes, elle t'a laissé son verre, pourquoi ?
Comme ça, on sait qu'il est en sécurité.
Mais lors des soirées entre amis, être sur la défensive gâche ces moments festifs.
Les femmes, elles ont le droit de disposer de l'espace public de la même façon que les hommes. On ne peut pas s'interdire de tout faire sous prétexte que tout est dangereux.
Au moment du départ, la facture grimpe. VTC au taxi, elles évitent à tout prix les transports en commun. Ces jeunes femmes réclament plus de patrouilles de police dans la capitale et l'installation de caméras.
Voilà ce que vivent les femmes en soirée quand elles sortent dans la capitale aujourd'hui, obligées de se promener, de sortir avec une bombe au poivre, de faire de la boxe pour certaines lorsqu'elles ont déjà été agressées auparavant, de se surveiller l'une l'autre, de ne jamais laisser leur verre poser quelque part sans surveillance, de rentrer systématiquement, de devoir payer un taxi pour rentrer parce qu'elles ne peuvent pas prendre les transports en commun parce que c'est trop dangereux. Guillaume Bigot, ça vous fait réagir? On a du mal, souvent quand on est un homme, à réaliser à quel point c'est difficile d'être une femme dans la capitale.
Je peine à imaginer ce que les historiens du futur diront de nous, parce qu'il y a le cas de ces jeunes filles qui est déjà totalement inacceptable. Mais je pense aussi à toutes les jeunes filles qui habitent dans ce qu'on appelle pudiquement les quartiers et qui doivent vraiment, qui se sentent menacées dans leur corps, hein, qui sont obligées d'adopter un certain type de comportement, d'attitude, de raser les murs, etc., parce qu'ils sont sous la protection.
Mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est plus limité aux quartiers.
C'est plus limité au quartier. Il y a une volonté d'imposer par la force un certain nombre de comportements, c'est sûr. Je crois qu'il faut vraiment revenir à nos fondamentaux. Nos fondamentaux, ce n'est pas MeToo, balance ton porc. Depuis le Moyen-Âge, notre pays a une tradition très puissante et très longue avec de la chevalerie, de la galanterie. Ça s'est transmis même dans le monde bourgeois, même dans le monde ouvrier, etc. C'est profondément français. Un Français, c'est quelqu'un dont la dignité consiste à se battre pour défendre une femme et pour défendre quelqu'un qui est fragile.
Ça existe encore, ça, Guillaume
Bigot. C'est insupportable. Donc l'idée que ces jeunes filles soient obligées, se sentent, objectivement menacées dans notre capitale et dans le cœur des grandes villes quand elles sortent, ça me paraît complètement... je ne sais pas, encore une fois, ce que diront les historiens de nous dans l'avenir. C'est vraiment une lâcheté terrible. Ensuite, effectivement, j'avais regardé, vous savez qu'on allait parler de ce sujet, ce qui se passe dans les transports en commun d'Île-de-France. Donc il y a 122 000 vols, violences, coups et blessures et viols par an. Il y a 22 000 environ coups et blessures, violences et viols. Et ça correspond à 60 agressions par jour et à 5 par heure si on regarde les heures d'ouverture de ces transports en commun. Et l'essentiel des victimes sont des femmes et sont des femmes jeunes. Mais cette enquête donne également d'autres indicateurs. Par exemple, les violences sexuelles commises dans ces transports en commun en 2020-2021, c'est 44% commis par des étrangers, qui représente 7% dans le pays. 25% des coups et blessures par des étrangers, alors qu'ils sont 7% dans le pays. Voilà. Donc on voit bien de quoi il s'agit, en fait. Et lorsque Marlène Schiappa avait sorti, souvenez-vous, son application, parce que ça a été le grand thème du premier quinquennat, c'était lutter contre les violences faites aux femmes et contre les féminicides, et il y avait eu l'idée d'une application pour dire indiquer là où vous êtes victime de harcèlement et de violence. Et immédiatement, l'application a été retirée parce qu'on voyait trop bien de quoi il s'agissait et de quel quartier il s'agissait.
Guillaume Perrault, je vous soumets ce chiffre, la progression des violences sexuelles en l'espace de 10 ans. On en avait 28 000 signalés en 2012 et plus de 75 800 à la fin de l'année 2021. Est-ce que vous êtes d'accord sur le constat qui est fait aujourd'hui par Guillaume Bigot de la provenance de ces violences? Guillaume Bigot parlait des étrangers.
Alors, dans la rue, parce que dans les familles, c'est autre chose.
Je ne veux pas m'avancer sur un chiffre précis parce que je n'ai pas de statistiques précises en tête. Ce que le ministre de l'Intérieur lui-même a déclaré il y a quelques semaines, c'est qu'il y avait une surreprésentation d'auteurs étrangers dans les actes de délinquance ou de criminalité en France dans les grandes agglomérations. Il a donné des chiffres pour Paris, et je crois que c'était Lyon aussi. Alors les chiffres évidemment différaient un peu selon que c'était Paris ou Lyon. Enfin, il y avait ce qui est absolument documenté, établi, avéré, c'est qu'il y a une surreprésentation parmi les personnes mises en cause pour fait de délinquance ou de criminalité de personnes étrangères. Voilà ce que l'on peut dire. S'agissant des tentatives de viol ou des viols, je ne sais pas. Je ne peux pas être plus précis sur ce point-là parce que je n'ai pas de chiffres en tête.
Comment on assure aujourd'hui la protection des femmes qui sortent dans la capitale ?
Bah, déjà, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est effarant, consternant qu'on en soit là. Moi, j'ai des exemples autour de moi de jeunes femmes qui ont acheté des tasers. Vous savez, ces pistolets avec lesquels vous pouvez donner une décharge électrique à un agresseur. Alors, selon le temps que vous passez au contact, si c'est jusqu'à une seconde, il paraît que ça peut vraiment étourdir fortement l'agresseur. C'est des sujets de conversation entre jeunes femmes aujourd'hui à Paris.
Le danger est complètement intériorisé.
Il est intériorisé. Il est certain que la façon de se vêtir, le choix d'emprunter ou non les transports en commun à telle ou telle heure, le fait de d'être dans la rue dans tel ou tel quartier ne peut qu'être influencé par des mauvaises expériences personnelles, voire des traumatismes, et puis des faits qu'on nomme à tort des faits divers, parce qu'il y a une pointe de condescendance dans cette expression de faits divers. On a bien vu des affaires de viol dans l'espace public à Paris cet été. Et ça n'a fait qu'illustrer.
Exactement, voilà.
Ça n'a fait que 26
viols de rue cet été.
Alors, on va nous dire oui, mais c'est à 2h du matin, d'accord. Mais il y en avait un qui était en plein cœur de Paris, quasiment en face de la préfecture de police.
Ça fait 26 de trop.
Guillaume Bigot. Dernier mot là-dessus, et on passe à la suite.
J'insiste sur un point, on ne juge jamais des individus à partir de communautés, jamais des communautés à partir des individus. Bien sûr que s'il y a une surreprésentation d'un certain type d'immigration dans ces faits-là, et des étrangers, bien évidemment, ça ne veut pas dire que tous les étrangers, ou etc., etc.
Bon, non, mais c'est bien de le rappeler, effectivement.
C'est très important. De la même façon qu'il peut tout à fait y avoir des agressions commises par des Français dits de souche, je déteste cette expression, enfin passons. Et je pense qu'il y a effectivement un lien qu'établit par exemple un Kamel Daoud, qui est un formidable romancier algérien, qui explique bien la frustration sexuelles qui règnent dans certaines terres d'islam et qui font que le rapport à la femme dans l'espace public n'a rien à voir. Mais il ne faut pas non plus être simpliste. Ce n'est pas que une explication de type l'islamisme qui porte cette vision très négative de la femme et en même temps cette culture qui dévalorise la femme. C'est aussi le fait que ces gens, et je pense aux mineurs isolés par exemple, ce sont des gens qui sont très déboussolés déjà dans leur pays. Oui. Donc il y a un autre biais de sélection en plus.
Allez, on avance. Une mairie écologiste qui finance des ateliers de formation à la désobéissance civile. Très concrètement, c'est la désobéissance à la loi. Ces ateliers sont organisés ce week-end par une association subventionnée par la ville de Poitiers. Et cela suscite la colère de la préfecture et de l'opposition. Ils réclament l'arrêt des subventions à cette association. Les explications, Yann Effelé.
Un thème du week-end crée la polémique, celui de la résistance. Dans le programme établi par l'association Alternativa, figure une formation à la désobéissance civile, avec notamment des activistes de Greenpeace. Et le lendemain, un débat sur les actions violentes et non violentes. Un dispositif qui fait réagir le préfet de la Vienne. Il demande à la maire écologiste de Poitiers d'annuler ses subventions pour l'événement.
Ces ateliers de désobéissance civile sont manifestement incompatibles avec le contrat d'engagement républicain, considérant qu'ils inciteraient à un refus assumé et public de respecter les lois et règlements.
La maire de Poitiers persiste et maintient son soutien. Rien d'illégal pour elle, contrairement à ce qu'affirme la préfecture.
Cette affirmation semble bien disproportionnée. Alternativa organise deux journées ouvertes, familiales et largement fédératrices, non violentes et sans aucun risque de trouble à l'ordre public.
La maire va jusqu'à inciter ses habitants à y participer dans un communiqué. Une situation incompréhensible pour cet élu d'opposition.
La question, elle porte pas tant sur le village et sur le soutien à des associations qui luttent contre le réchauffement climatique, il faut être clair. La limite, c'est de ne pas subventionner, de ne pas soutenir ni financièrement ni moralement des associations qui appellent à désobéir à la loi.
Ces ateliers de désobéissance civile ne sont pas une première. Alternatiba les organise depuis plusieurs années lors de ces rassemblements.
Guillaume Bigot, c'était la dernière polémique qui nous manquait de la part d'une mairie écologiste ?
Ah bah la machine à polémique et à buzz, elle est vraiment bien, bien rodée. C'est un cas assez effectivement savoureux, mais ce n'est pas le seul. Enfin, il y a quand même depuis longtemps dans notre pays des subventions publiques accordées à des islamistes qui détestent l'ordre républicain. Il y a le ministère de l'Intérieur qui feint de vouloir agir contre les clandestins, mais qui, de le même ministère de l'Intérieur, subventionne assez largement des associations qui aident des migrants en situation irrégulière à porter plainte contre l'État lui-même. Donc ce système de Mao, comme disait Mao Tse-Tung, bombarder les États-majors, c'est-à-dire que l'autorité donne l'ordre de se saboter elle-même, bah, c'est maintenant un grand classique. D'une certaine façon, le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous avez des chefs d'État qui se réunissent aux Nations Unies et qui écoutent une gamine de 13-14 ans leur hurler dessus et qu'ils applaudissent à tout rompre, après, j'irais...
Bon, est-ce que cela dit, la comparaison...
Non, mais qu'il leur hurle dessus et qu'il les engueule. C'est-à-ire que je pense que la cause de Mme Thunberg est tout à fait...
Je ne sais pas si c'est
Ah bah, you should be ashamed, etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire le truc.
Mais effectivement, il y a là, en tout cas, dans cette initiative, dans cette association qui organise des ateliers sur la désobéissance civile, le concept même de désobéissance civile pose problème. On rompt le contrat d'engagement républicain quand on est...
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être conséquent. C'est-à-dire que si vous faites la promotion d'idées qui sont radicales, par exemple que jeudi prochain, le monde va s'écrouler, il faut en tirer les conséquences. Il faut être conséquent dans la vie. Donc vous ne pouvez pas tenir d'une part un discours radical et ne pas en tirer des conséquences. Donc on s'étonne et on feint de s'étonner qu'il y ait un appel à la désobéissance civile alors que les autorités nous expliquent que la planète est en train de s'effondrer. Donc il faut choisir.
Guillaume Perrault.
Alors, on vit une époque de facilité cocasse où les rebelles veulent être subventionnés par l'argent du contribuable.
Absolument.
C'est surtout ça que je retiens. C'est quand même extravagant. Des rebelles qui devraient être fiers d'avoir contre l'autorité publique, puisque c'est la logique de leur activisme, okay. Ils réclament maintenant que le contribuable...
Institutionnalisé.
Voilà, c'est les rebelles institutionnalisés. Ils veulent se nourrir d'argent public et de subventions. Il n'y a qu'en France qu'on peut voir ça sans susciter un éclat de rire. La désobéissance civile, elle pose des problèmes de longue date. Au 19e siècle déjà, il y avait un Américain qui s'appelait Thoreau, qui avait théorisé la désobéissance civile. C'est un phénomène qui a toujours existé. Mais il n'y a qu'en France qu'on voit des rebelles qui non seulement réclament le risque zéro, parce que quand ils sont déférés devant les tribunaux, ils se scandalisent. Comment ? J'ai appelé à désobéir à la loi et on ose me poursuivre en justice. Ben oui, ben ils devraient être fiers. Ça. C'est la logique, c'est le fait d'être condamné qui devrait au contraire être un titre de gloire pour eux. Mais pas du tout. Ils réclament le risque zéro et le confort absolu. Et en plus, il faudrait les subventionner par l'argent public. La moindre des choses, la moindre des égards pour le malheureux contribuable français, c'est qu'il n'ait pas à subventionner des techniques, des formations visant à désobéir aux lois en vigueur. Donc le préfet a évidemment raison.
Emmanuel Macron qui adresse une lettre aux enseignants pour expliquer la révolution copernicienne, je cite, qu'il souhaite engager dans l'éducation nationale. Mais ce qui a tout particulièrement retenu l'attention des professeurs dans cette lettre, c'est la question des rémunérations dans un métier. Je le rappelle, on a quand même du mal à recruter. Et là, pour les syndicats, l'ambiguïté demeure. Regardez, écoutez ce que dit Emmanuel Macron. Tous les enseignants qui le souhaitent pourront en effet s'engager dans des missions supplémentaires. Par exemple, du remplacement, du suivi individualisé, de l'accompagnement à l'orientation ou à l'insertion professionnelle ou des tâches de coordination. Ce travail, que beaucoup d'entre vous accomplissent déjà, dit le chef de l'État, sera désormais reconnu et rémunéré. L'augmentation du salaire des enseignants qui accepteront ce pacte pourra ainsi aller jusqu'à 20%. Et là, ça passe plutôt mal pour les syndicats. Je vous propose d'écouter ce que nous dit Jean-Rémy Girard, président national du SNALC, le syndicat des personnels de l'éducation nationale.
Il va falloir arrêter avec le travailler plus pour gagner plus, hein, ce qu'est en fait ce pacte. On est quand même l'un des seuls métiers qui a une crise de recrutement importante et où la réponse est... Il faudrait quand même que vous travailliez un petit peu plus, que vous en fassiez un petit peu plus si vous voulez gagner plus d'argent. Mais qui fait ça ? On est en train de revaloriser toute une catégorie de juges comme ça, c'est probablement parfaitement justifié. Pourquoi les enseignants sont toujours soupçonnés par le pouvoir, et visiblement par le président de la République, d'être des fainéants ? Parce que quand on dit qu'il faut faire un pacte pour gagner plus d'argent, ça veut bien dire que, visiblement, aujourd'hui, on ne travaille pas assez.
Il va falloir arrêter le travailler plus pour gagner plus, nous dit Jean-Rémy Girard, qui voilà, s'offusque de voir les juges revalorisés, eux, sans contrepartie, alors qu'on insinue que par cette demande de travail, les enseignants seraient des fainéants. Est-ce qu'ils sont des fainéants, les enseignants ?
Non seulement ce ne sont pas des fainéants, mais je pense que c'est un métier qui, pour être bien fait, nécessite vraiment un travail de préparation important, de réfléchir à la manière dont on va enseigner, corriger des copies. Enfin, pour moi-même, avoir été enseignant, bien sûr que c'est un véritable travail et que je pense qu'on bosse sûrement plus que chez McKinsey. Ceci étant dit, il me semble que avoir compris que M. Macron croyait au marché. Alors, s'il croit au marché, il doit constater quand même qu'il y a un prix de marché et que là, pour recruter des enseignants, il n'y a pas beaucoup de gens qui se bousculent au portillon pour passer les concours.
Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ?
Voilà,
on revalorise les métiers.
Voilà, normalement, oui. Et alors là, quand vous dites, oui, vous allez gagner plus, mais en travaillant plus, bah, ce n'est pas un calcul de marché. Parce que là, pour le coup, si vous gagnez pas un euro en plus, si vous travaillez plus pour gagner plus. Enfin, vous avez exactement la même rémunération, tout le monde peut le comprendre. Et puis, ce côté grandiloquent commence à devenir fatigant. Le Conseil national de la Résistance devient le Conseil national de la Refondation. Il y a maintenant la Révolution copernicienne. Bon, il y avait avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, avant 1789, après 1789. Maintenant, on a bien compris, il y avait avant Emmanuel Macron, après Emmanuel Macron. Tout ça est copernicien, ça nous amène vers une grande bascule. Bon, mais moi, je suis rassuré, on a un grand, grand, grand timonier à la tête de l'État.
Et Jupiter qui est donc au centre du système scolaire désormais. Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox, comment vous percevez cette demande de la part des syndicats et le fait qu'ils soient d'ailleurs offusqués, qu'on leur demande aujourd'hui des contreparties ?
Écoutez, moi, je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux dans les propos d'Emmanuel Macron. Tous les jours, dans des entreprises, on vous dit, écoutez les gars, il faut tenir nos comptes, donc on sait bien que vous êtes débordés, il va falloir faire encore plus et on n'embauchera personne de plus, faites avec. C'est ainsi.
Si on suit la loi du marché, ce que disait Guillaume Bigot, c'est qu'effectivement, on a une pénurie de professeurs d'enseignement.
Je vais répondre à cet argument.
On rend les conditions de travail plus...
Non, mais attendez. Ça ne s'applique qu'au capital, jamais au travail.
La loi du marché, elle réclame aussi qu'une entreprise ait la liberté de s'organiser comme elle l'entend. Et si un chef d'entreprise dit aujourd'hui, écoutez, pour la rigueur des comptes, on ne va pas embaucher plus et tout le monde devra travailler plus... C'est, encore une fois, je ne vois pas ce que ça a de scandaleux. C'est la vie quotidienne de millions de salariés français du secteur privé aujourd'hui. Donc je ne vois pas ce que ça a de honteux ou d'outrageant en soi. En revanche, c'est pour ça que je suis surpris par la déclaration du syndicaliste que je connais un peu, que nous venons d'entendre, parce que d'ordinaire, je le trouve plus mesuré, plus inspiré. Mais là, visiblement, il a eu une réaction épidermique à cause de la comparaison, parce que dans la fonction publique, tout le monde se compare et se jalouse, avec les magistrats du corps judiciaire qui ont été augmentés de façon, je dirais, discrétionnaire. Là, il y a un geste vraiment souverain. Brutalement, il y a 1000 euros bruts qui tombent. Et ça a surpris tous les fonctionnaires, tous les corps de l'État. Et c'est vrai que moi, personne n'est capable de dire pourquoi, brutalement, une somme aussi importante est affectée indistinctement à tous les magistrats du corps judiciaire, que oui ou non ils soient exposés personnellement, enfin qu'il y ait une surcharge de travail personnel ou non. Donc que voulez-vous, avec une décision aussi maladroite, alors que la veille on vous disait c'est pas possible, bah finalement le lendemain ça devient possible. Il est inévitable que les syndicats de tous les autres corps en tirent argument pour défendre leur boutique. Ça je comprends, c'est humain. Mais j'y reviens sur le principe, ce qu'a dit Macron ne me paraît en aucun cas choquant.
Quelques secondes pour finir, Guillaume Bigot.
Ben, je pense que dans une école privée, quand on constate qu'on ne peut pas recruter des professeurs, effectivement, la loi du marché, c'est d'augmenter le salaire. Et on ne peut pas résoudre le problème de manque de profs en expliquant aux gens qu'ils vont faire des heures supplémentaires, surtout si la concurrence vous propose mieux ailleurs. C'est très simple, hein. C'est la loi du marché. Ensuite, moi, je crois qu'il y a un problème, c'est qu'effectivement, il y avait besoin d'augmenter un certain nombre de fonctionnaires parce que, pour la même raison d'ailleurs, même cause produisant les mêmes effets, puisque pendant très longtemps... On a eu cette idée qu'on avait un échange en France, on avait la sécurité de l'emploi dans la fonction publique, mais on acceptait des salaires un peu moins bons. Le deal semble ne plus fonctionner. Mais surtout, il y a beaucoup trop d'enseignants, plus d'1 million, pour que ce n'ait pas un impact gigantesque sur les finances publiques. C'est ça la réalité.
Allez, merci messieurs d'avoir participé à ce débat d'en face à Bigot, Guillaume Bigot et Guillaume Perrault sur CNews et sur Europe 1. Vous restez avec nous sur CNews, la matinale week-end se poursuit. Et sur Europe 1, vous retrouvez Lénaïque Monnier et Frédéric Taddeï. Bonne journée à tous, bon samedi, bon week-end sur CNews et sur Europe 1.